Notre thème, c'est « Soyez remplis de l'Esprit ». On a commencé à voir ensemble les différents symboles qui représentent le Saint-Esprit dans la parole. Et on a commencé par l'huile. Et puis j'aimerais, toujours dans le symbole de l'huile de l'Esprit, partager quelques pensées avec vous dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 4, au verset 1er. Zacharie chapitre 4, verset 1er. « L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase, l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Verset 8, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. » Juste une toute petite précision, ici, il n'est pas question d'un ange, il est question de l'ange, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Le verset clé de ce passage, c'est le verset 6. C'est l'explication de la vision. Et c'est l'enseignement pratique qu'il faut en retirer, non seulement pour Israël, puisque dans le contexte immédiat, c'est vrai que il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament et dans Zacharie notamment qui concernent Israël, mais ça concerne aussi nos vies, nous qui sommes aussi le peuple de Dieu, et qui concerne l'Église. Et le verset clé ici, c'est le verset 6. « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zorobabel, son nom signifie « rejeton ». Rejeton de Babylone. Son nom signifie « rejeton de Babylone ». Son nom en dit long sur lui, c'est un rejeton. Donc, il ne vaut rien. Il n'est rien, il n'a rien, il ne peut rien. C'est un homme comme un autre qui, à l'époque de la déportation, lorsque Nebuchadnezzar a fondu sur Jérusalem, détruit le temple, détruit les murailles, lorsqu'il a brûlé la ville et qu'il a emmené environ en moins 580, il y a eu plusieurs cortèges successifs de déportation, moins 600, moins 590, moins 586, la destruction, etc. À ce moment-là, il y a eu des cortèges et des cortèges de déportés vers Babylone, dans le royaume des Chaldéens, vers Nebuchadnezzar. Et il y avait des promesses de rétablissement, des restaurations. Plusieurs fois dans la parole, Dieu avait promis qu'il y aurait un retour. Et ce retour a déjà eu lieu. Il y avait des promesses de reconstruction, de restauration, de succès. Ces promesses avaient été données. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait déjà quelques années qu'ils sont rentrés. On serait autour de moins 520, c'est aux alentours de moins 536 que les cortèges ont commencé à revenir et que les cortèges de déportés étant revenus, ils ont repris les travaux. Ça fait environ 15-16 ans que les travaux ont repris. Le temple, les travaux du temple ont recommencé sous la direction de Zorobabel qui symbolise le pouvoir civil. Il a, Zorobabel, la responsabilité de reconstruire le temple de l'Éternel, ce temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar bien des décennies auparavant. Alors cette parole, elle est prononcée dans un contexte difficile. Puisque à ce moment-là, oui, il y a eu des promesses de guérison, Il y a eu des promesses de restauration, il y a eu des promesses de relèvement, et ça fait bien longtemps. Bien avant que les problèmes commencent, Dieu avait annoncé la déportation, le retour, la guérison, le relèvement. Il avait tout annoncé. Et pourtant, il y a tellement de blocages. Dieu a dit, Dieu a promis, ils sont rentrés. Le chantier est à l'arrêt, tout est à l'abandon. Rien ne marche, rien ne fonctionne comme ça devrait. Le chantier est en cours, mais il n'avance pas. L'édifice ne se lève pas. Et frères et sœurs, combien de fois, pardon, c'est la même chose dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Parce que vous savez ici le chandelier. Vous vous souvenez du livre de l'Apocalypse ? Celui qui a l'apparence d'un fils d'homme, Jésus, marchant au milieu des sept chandeliers. Le chandelier peut représenter Israël, mais par extension, il représente aussi l'Église. Ça concerne ma vie, ça concerne le peuple de Dieu, ça concerne l'Église. Combien de fois, alors qu'on a été mis au bénéfice de promesses, alors que le Seigneur nous a ramenés dans sa maison, alors qu'il y a eu des promesses de guérison, de relèvement, combien ici sont au bénéfice de certaines promesses, et le temps passe, excusez-moi, le temple qu'est nos vies, parce que nous sommes un édifice spirituel maintenant à la gloire de Dieu, notre vie spirituelle, ce temple qu'est nos vies, dans le meilleur des cas, il est resté au même niveau. On s'est arrangé pour ne pas en perdre trop. Mais l'édifice ne s'est pas construit, l'édifice ne s'est pas élevé. L'édifice qui est ma vie spirituelle aurait depuis les années dû prendre de la hauteur. Il devrait être fort, il devrait être solide. Il devrait y avoir, avec ces chandeliers qui sont là, l'olivier qui est symbolisé par... Jésus qui est symbolisé par l'olivier, c'est lui qui assure l'alimentation continuelle et perpétuelle en huile dans ce vase. Cette huile, c'est l'huile de l'esprit qui coule par des canaux. Enfin, ça, pardon, mais avec tout ça, ça devrait marcher. Ça devrait largement fonctionner. Et il y a bien des moments, frères et sœurs, dans nos vies, on est comme Zorobabel, on se sent comme des rejetons, on sait qu'on est insignifiant, on sait qu'on n'est pas capable. Enfin, ça, on l'apprend avec le temps, parce que combien de fois, j'ouvre une parenthèse, combien de fois on a essayé de faire l'œuvre de Dieu par nous-mêmes ? Dans nos vies, dans la vie des autres, dans les églises, je ferme la parenthèse. Et on a appris, comme Zorobabel, que nous étions insignifiants, que nous étions des rejetons, que nous étions incapables. Vous n'avez pas pu vous changer vous-même. Vous n'avez rien pu changer dans votre famille. Vous n'avez rien changé dans vos circonstances. Ce n'est pas possible. Et pourtant, vous avez des dizaines et des dizaines de promesses dans la parole qui vous concernent. Alors, Zorobabel est là. Il est dans le découragement. Il y a effectivement, certes, des circonstances. Il y a des ténèbres. C'est vrai que les circonstances ne sont pas faciles. Ni maintenant, ni à son époque. C'est vrai qu'il a eu de l'opposition. Et face à l'opposition, beaucoup de gens du peuple se sont découragés. Et puis, non seulement il y avait l'opposition qui a découragé, mais il faut être honnête, il y avait aussi le manque d'engagement du peuple. Ils n'avaient pas l'engagement à la hauteur de la tâche qui leur était confiée. Puisque Zacharie est âgé, juste avant Zacharie, sont deux prophètes qui ont été suscités par Dieu dans cette période de découragement pour relancer, pour ramener le cœur du peuple à Dieu et pour relancer la construction du temple. Et c'est dans Agé, qui est le contemporain de Zacharie, qui exerce son ministère prophétique dans le même cadre que lui, au même moment, dit au peuple, vous avez, pardonnez-moi l'expression, hein, je paraphrase, vous avez des super baraques. Vous avez des situations professionnelles, vous avez ci, vous avez ça, vous avez des belles demeures lambrissées, vous avez construit ça, vous avez construit là, vous avez fait ci, vous avez accompli ça. Chacun vit pour son entourage immédiat, pour sa propre vie, pour ses propres intérêts. Mais moi, ma maison, elle est détruite et il n'y a plus personne qui s'en occupe, ou en tout cas pas grand monde. Et ceux qui s'en occupent, ils sont tellement peu nombreux qu'ils sont découragés. Et on ne les juge pas, parce qu'il y a le découragement, c'est normal, on y passe tous. Alors Zorobabel, il est dans le découragement, à cause des combats, mais à cause du manque d'engagement du peuple. Alors Zorobabel, lui aussi, il a fini par devenir fataliste. Ça ne nous arrive jamais, bien sûr. il a fini par laisser aller. On laisse courir. Il a fini par laisser aller. Il est dans une espèce de léthargie, de sommeil spirituel, et il laisse aller les choses. En plus, il a aussi des raisons d'être découragé, à cause des combats, à cause du manque d'engagement du peuple, mais aussi en réalisant sa propre faiblesse. Zorobabel, ici, est confronté à toute sa faiblesse, à son incapacité, à son insuffisance. C'est pour ça que Dieu suscite les prophètes, la parole, pour relancer tout ça. Dans cette scène, je vous l'ai dit dans les deux messages précédents, évidemment la solution, c'est l'huile. L'huile de l'esprit, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit qui est symbolisé par l'huile. C'est le secret de l'efficacité. Mais pas que. Au risque d'être choquant, l'huile du Saint-Esprit Tout-Puissant ne suffit pas. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer ? Si vous vous êtes déjà amusé étant enfant, ou si vous voulez le faire cette semaine, vous essaierez de fabriquer des lampes à huile. Vous avez déjà fait des lampes à huile ? Lampes à huile faites maison, c'est rigolo, hein, c'est bien. Hein. Vous prenez un petit bocal propre, vous faites un petit trou, vous mettez, remplissez d'huile, vous fermez le couvercle, vous pouvez essayer d'allumer, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié dans le schéma ? La mèche. Dans ce tableau magnifique, frères et sœurs, qui est ici sous nos yeux, où apparemment, oui c'est sûr, rien ne manque, je le dis encore, Dieu a fait sa part, il a fait tout ce qui devait être fait. Dans ce tableau magnifique, il y a quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est là, qui est nécessaire, c'est implicite, vous le savez, c'est un élément présent qui est indispensable. Dans la lampe à huile, il faut des mèches. L'alimentation en huile, elle est assurée par Jésus. Le Saint-Esprit vient de lui. C'est de l'olivier que vient l'huile. C'est de Jésus que vient le Saint-Esprit. Et l'huile de l'Esprit, on l'avait vu dans d'autres textes, elle est abondante, elle est illimitée, elle a un potentiel, une capacité qu'on ne soupçonne même pas. Et l'huile sera toujours là, elle est permanente, elle est perpétuelle, elle est continue. C'est Jésus qui garantit cette alimentation perpétuelle en huile. Donc il y en aura toujours. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'huile. Pour qu'il y ait du feu, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait de la chaleur, pour qu'il y ait de l'efficacité, pour qu'il y ait du résultat, pour qu'il se passe quelque chose, pour que ça brûle, pour que ça vive, pour que ça change, il faut des mèches. La mèche, certes, c'est juste un intermédiaire. Mais sans elle, vous me l'avez dit, vous le savez, sans la mèche, il n'y a rien qui va se produire. Vous pouvez mettre toute l'huile que vous voulez, toute l'huile que vous voulez, elle ne brûlera pas. Il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de chaleur, il ne se passera rien, il n'y aura pas de feu. Sans mèche, ça ne marche pas. Dans le premier message sur l'huile, souvenez-vous, je vous ai dit que la veuve devant Élisée, elle était dans le désarroi, le créancier était là pour anéantir sa vie et celle de ses enfants. Et dans son désarroi, Élisée lui a dit, je paraphrase, la solution, c'est l'huile. La bonne nouvelle, c'est que l'huile, elle est dans la maison. La bonne nouvelle, c'est que l'huile, elle a toujours été là. La bonne nouvelle, c'est que l'huile, elle ne manquera jamais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vase. À quoi ça sert de l'huile sans vase ? Alors va chercher des vases vides, amène-en beaucoup, n'en demande pas un petit nombre. Le problème, ce n'était pas l'huile, le problème, c'était les vases. Le miracle a commencé quand il y a eu des vases vides et il s'est arrêté quand il n'y avait plus de vases vides. Ici, pour que ça brûle, pour que ça marche, il faut des mèches. Quand il y aura des mèches trempées dans l'huile, ça va brûler. Ah, je vous ai pas fait une grosse étude biblique hein, ce matin. Hein. Il faut des vases vides il faut des mèches. Et voyez, frères et sœurs, cette mèche insignifiante, parce que c'est quoi ce petit morceau de tissu, ce petit morceau d'étoffe, cette mèche, ce petit morceau-là, qu'elle soit plus ou moins longue, peu importe. Qu'est-ce que c'est en soi? C'est comme un sarment. Un sarment, c'est moche, c'est sec, c'est vil, à moins qu'il ne soit greffé au cep. Et s'il est bien greffé au cep, la sève de l'esprit monte, la sève remplit le sarment, et comme le sarment est bien rempli de sève, pouf, les miracles ont lieu, les fruits apparaissent. Et ici, c'est pareil. La mèche, c'est petit, c'est anodin, c'est moche, c'est vil, ça ne sert à rien en apparence. La mèche, elle n'a pas de force en elle-même. C'est un petit morceau de rien du tout, c'est rien en soi. Et pourtant, elle est indispensable. Une mèche, c'est rien, pourtant c'est indispensable. Dieu veut, l'huile passe par la mèche et il y a du feu. Il faut que ça passe par la mèche. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que ça passe par toi. Si la sève de l'esprit n'imbibe pas, ne remplit pas le sarment que tu es, il ne se passera rien, tu seras un religieux pardon. Si l'huile de l'esprit ne monte pas pour imprégner, imbiber la mèche, il faut que la mèche soit constamment imbibée par l'huile, il n'y aura pas de feu. Il y aura beaucoup de fumée. Vous avez déjà essayé d'allumer une mèche qui n'a pas trempé dans l'huile? Ben, essayez chez vous, je ne vous le fais pas là. Ça va déclencher l'alarme incendie. Ça fait une fumée noire, ça fait une odeur âcre, c'est nauséabond, c'est désagréable. Une mèche qui brûle quand il n'y a pas d'huile, c'est... Dieu veut que l'huile passe par toi. Tu voudrais que ça change dans ton couple. Tu voudrais que ça change dans ta famille. On a même déjà juste commencé par ta vie. Tu voudrais que ça change dans ta vie. Tu veux de la lumière, tu veux du feu, tu veux de la chaleur, tu veux de la puissance, tu veux de l'efficacité, tu veux une vie digne de ce nom, tu veux les ressources, les richesses du ciel. Dieu dit non, je ne ferai rien de plus, il faut que ça passe par toi. Et quand l'huile, elle va passer par la mèche que tu es, eh ben, il y aura du résultat dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que Dieu était en train de dire à Zorobabel. Tu es rien, Zorobabel, il faut que tu comprennes. Ça fait des années que tu travailles dans ce temple. Les combats ont eu raison de toi. Je sais, frères et sœurs, que dans la vie, il y a des combats, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Il y a des combats qui sont terribles, j'en ai conscience. Les combats ont eu raison de toi. Ta propre négligence spirituelle a eu raison de toi. Tout ce qui a pu se passer à droite, à gauche, a eu raison de toi. Et tu peux être découragé, on peut le comprendre. Et Zorobabel, ici, doit comprendre, il doit saisir. Ça fait des années qu'il essaye de faire l'œuvre de Dieu par lui-même. Il essaye de construire le temple, il essaie de régler les problèmes, il essaie de motiver les gens, il court, il s'agite, il se disperse. Et au bout d'un moment, moi j'en ai marre, j'arrête tout. Zorobabel, n'oublie pas que tu t'appelles rejeton. Et que sans l'huile de l'esprit dans ta vie, tu n'es rien. Et que tu ne produiras rien, quel que soit le domaine dont on pourrait parler. Cette mèche a une place très précise. Il faut qu'elle soit dans l'huile. Pas à côté. Pas à proximité. Il faut qu'elle soit trempée dans l'huile. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ce qui va faire la différence dans nos vies, frères et sœurs, dans chacune de nos vies, parce que je ne peux pas faire le plein d'huile pour vous. Je ne peux pas vous donner mon huile. Quand la nuit s'épaissit, je ne peux pas vous donner mon huile. Vous ne pouvez pas me donner ou vous donner les uns les autres de votre huile. Lorsque les 10 vierges qui étaient là dans la fin des temps, elles attendaient l'époux tardait à venir, vous noterez que les 10 vierges, Matthieu 25, elles se sont toutes endormies. Ça arrive à tout le monde. Elles se sont toutes endormies. Seulement quand le Seigneur a sonné le clairon à la dernière minute, celle qui avait de l'huile, et l'huile c'est quoi? C'est l'esprit, celle qui avait l'esprit, celle qui avait de l'huile, Elles se sont réveillées, elles avaient encore suffisamment d'énergie, de ressources pour aller à la rencontre de l'époux. Mais celles qui étaient inconscientes, insensées, elles n'avaient pas d'huile, elles n'avaient pas cette vie. Alors elles ont dit aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Et vous lirez comme moi, elles ont dit non, c'est pas possible. On n'est pas radine, mais on ne peut pas te donner d'huile. C'est personnel. Et avec l'huile de l'esprit qui était en elles, elles ont été jusqu'à la fin, jusqu'à la rencontre de l'époux. Vous ne pouvez pas vivre de l'huile de votre conjoint. Vous ne pouvez pas vivre de l'huile que vous avez dans les réunions. Parfois, il y a des chrétiens, c'est bien. On vient, on a un cœur disposé, on se fait du bien, on passe un bon moment ensemble. Là, dans les réunions, on a passé un bon petit moment, c'était bien, ça nous a fait du bien, on a vécu un peu quelque chose. On peut dire qu'on a un peu, on a trempé dans l'huile pendant la réunion. Mais après, combien, frères et sœurs, combien de fois, souvent, on a trempé dans l'huile dans les réunions, et une fois qu'on était reparti, c'était fini. On est reparti, on s'est retrouvé dans la semaine, quand ce n'était pas le lendemain, on s'est retrouvé confronté aux mêmes problèmes, les mêmes échecs, les mêmes critiques, les mêmes incapacités. Le même esclavage de notre caractère, la même pauvreté intérieure, les mêmes ténèbres, les mêmes incompréhensions, la même sécheresse, les mêmes faiblesses. Pardon, il y a des gens, ils sortent des réunions, le lendemain, ils pêchent. Pardon. Je ne peux pas, en ayant plongé ma vie dans l'huile, repartir et vivre les mêmes péchés. C'est pas possible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que je ne peux pas faire des stocks d'huile. Vous avez plongé votre mèche dans l'huile ce matin, c'est bien, mais c'est pour aujourd'hui. Demain, vous avez la responsabilité, j'ai en tant que pasteur, la responsabilité de veiller à ce que la mèche insignifiante, incapable et misérable qu'est Stéphane Brion, elle reste trempée dans l'huile de l'esprit. Et à partir du moment où je vais sortir la mèche, il ne va pas falloir longtemps avant que le peu d'huile qu'il y avait dedans soit absorbé, que ça brûle, et après, il n'y a plus d'huile. Et là, ça commence à fumer, ça commence à sentir mauvais, il y a des mauvaises habitudes qui reprennent le pas, il y a des échecs, des faiblesses, des péchés, des ténèbres. Et là, il faut que chaque jour, la mèche que je suis soit trempée dans l'huile de l'esprit. Demeurer dans l'huile. La mèche sera ainsi constamment imbibée, constamment imprégnée d'huile. Et là, ben ça peut brûler. Ça marche, ça fonctionne. Il y a tellement de gens qui disent « je comprends pas, ça marche pas la vie chrétienne ». Un, il faut une mèche, pas compliqué. Deux, il faut qu'elle soit plongée dans l'huile de l'esprit. Trois, il faut qu'elle soit continuellement plongée dans l'huile de l'esprit. Parce que je ne vis pas ma vie chrétienne par moi-même. C'est le Saint-Esprit qui me fait vivre la vie de Dieu. Ok ? Vous savez, quand on commence à ressortir la mèche de l'huile, il y en a encore un petit peu dedans. Ça va brûler encore un peu. Mais très très vite, ça va s'assécher. Il n'y aura plus d'huile. Et c'est là que je vous ai dit qu'il commence à y avoir cette odeur âcre, cette odeur désagréable, ça ne sent pas bon. On voit que la mèche se consume. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si je ne suis pas rempli de l'esprit, si la mèche n'est pas imbibée constamment par l'huile, ça veut dire que c'est la nature même de la mèche qui va commencer à brûler. Si je ne suis pas rempli de l'esprit, c'est ma nature charnelle qui va s'occuper de brûler. Et c'est pour ça, la mèche, c'est aussi le symbole de ma nature charnelle, pécheresse, incapable. C'est pour ça que Dieu me dit, reste constamment trempé dans mon huile. Si tu sors de mon huile, ta nature pécheresse, elle finira, ta nature charnelle, elle finira par reprendre le dessus. Il va y avoir une fumée nauséabonde. Ça s'appelle les œuvres de la chair. L'esprit de parti, les clans, les divisions, la rancune, la colère. La jalousie, les cancans, les péchés, etc., etc., etc. Ça sent la nature charnelle, ça sent la mèche. Et la mèche, si elle n'est pas trempée dans l'huile, en très peu de temps, elle se consume et il n'y a plus de mèche. Ce qui m'a interpellé, on en reparlera quand on parlera du feu, ici, c'est que la mèche, évidemment, ne se consume pas. C'est l'huile qui brûle au travers de la mèche. Mais la mèche ne se consume pas. La mèche, elle tient, elle dure dans le temps. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, on verra ça dans le livre de l'Exode, ce qui a interpellé Moïse, ce n'est pas le fait qu'il y avait un buisson en feu dans le désert. Parce que des buissons en feu dans le désert, vu la chaleur, c'était tout à fait normal, il y en avait régulièrement. Ce qui a interpellé Moïse, on le reverra plus tard, ce qui a interpellé Moïse, c'est qu'il y avait un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Et ça, ça l'a interpellé. Il s'est dit, là, il y a quelque chose de différent. Il faut que je sache quelle est la nature de ce feu qui arrive à être aussi vivant, aussi puissant, aussi sain, qui amène autant de résultats, mais qui ne consume pas le buisson. Frères et sœurs, notre vie avec Dieu, elle est appelée à brûler par l'huile de l'Esprit, mais pas à se consumer. Il y a des tas de gens dans les églises. Pardon, il y a des églises, il y a même des vies pastorales, je n'ai pas peur de le dire, ça ne me dérange pas, c'est pas grave, tant pis. Excusez-moi, il y a beaucoup de fumée. Mais il n'y a pas beaucoup de feu. D'où vient le problème ? Parce que la mèche n'est pas trempée dans l'huile. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens, des pasteurs, au bout de 5-10 ans de vie chrétienne, de ministère, pouah, ils se consument et il n'y a plus rien ? Parce que c'est la mèche qui brûle. Mais si j'étais vraiment plongé dans l'huile de l'Esprit, la mèche ne se consume pas. Le buisson ne se consume pas avec le feu de l'Esprit. Et par conséquent, c'est là que je fais la différence. C'est là que dans l'Église, dans ma famille, ailleurs, là où je suis, on vient me voir et on regarde, non pas une mèche, parce que je ne suis rien. On ne regarde pas un buisson, parce que je ne suis rien. On regarde une mèche qui ne se consume pas. Dis-moi ton secret. On regarde un buisson qui ne se consume pas. Dis-moi ton secret. Tu devrais être cramé, pardon, hein. Avec tout ce que tu traverses dans ta famille, tu devrais être cramé depuis longtemps. Pourquoi tu n'es pas cramé ? Donne-moi ton secret. Je ne suis qu'une simple mèche, je suis trempé dans l'huile de l'Esprit tous les jours. Amen. Ni par force, ni par puissance. Ce qui est intéressant ici, c'est que, je vais terminer avec ça, le mot puissance désigne littéralement la compétence. Il y a plusieurs sens. Le mot puissance a été traduit par compétence, richesse, talent, qui vont désigner en vérité toutes les capacités humaines. Ici, le Seigneur est en train de dire à Zacharie, à l'intention de Zorobabel, qui n'a pas de capacité en lui-même, il vient probablement de le découvrir, le Seigneur est en train de lui dire, ce n'est par aucune capacité humaine. On ne fait pas du divin avec de l'humain. La mèche ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de moi, qui le fait au travers de la mèche. Combien de fois nous nous sommes agités, parfois même excités, découragés ? Combien de fois nous avons déployé notre énergie, notre zèle dans différents domaines ? Pour arriver à quel résultat, excusez-moi, il n'y a rien qu'à changer. On en est toujours au même point. Et c'est exactement ce que Zorobabel était en train de vivre. Il vivait ça. Nous sommes dans des temps qui sont étrangement proches en France de ce que Zorobabel vivait à son époque. Et là, le Seigneur lui dit, ce ne sera par aucune capacité humaine. Qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit financière, ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ta force physique. Vous savez très bien qu'un jour, les forces physiques, elles peuvent partir bien plus vite qu'elles sont venues. Ce n'est pas avec ton énergie, ce n'est pas avec tout ce que tu vas déployer, ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas quand tu t'agites, ce n'est pas avec ta bonne volonté, ce n'est pas avec ton zèle. Des fois, on peut dire comme Élie, j'ai déployé mon zèle. Oui, mais tu te retrouves quand même dans une caverne, ça ne marche pas. Ma vie spirituelle ne va pas se construire, elle ne va pas s'édifier, elle ne va pas s'élever à la force de mon poignet ou avec juste mes efforts vains, charnels, ma bonne volonté, enfin mettez tout ça. La vie chrétienne est une vie miraculeuse. Nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. Et notre vie qui a été engendrée par l'Esprit doit continuer d'avancer, de se construire et de s'édifier par l'Esprit. Amen. Et c'est ça le secret, c'est juste ça. Cette œuvre qui a été commencée par l'Esprit, c'est encore par l'Esprit qu'elle va se continuer, qu'elle va se développer et que par la grâce de Dieu, elle va aller à son terme. Peut-être que comme Zorobabel, tu t'es affaibli. Peut-être que maintenant, en ce moment, depuis un certain temps, tu t'affaiblis sérieusement. Tu t'éteins. Tu perds le goût. Tu perds l'envie. Tu perds le zèle. Tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Est-ce que tu fais les choses peut-être juste parce que si tu ne les faisais pas, qu'est-ce qu'on penserait de toi ? Et il y a bien des moments, frères et sœurs, je ne juge pas, ça m'arrive, je suis un Zorobabel. C'est l'image du chrétien. Je m'affaiblis, je m'éteins, je me consume. Comme Zorobabel, tu t'es agité, tu as œuvré, tu as essayé, tu as déployé tout ce que tu pouvais. Les résultats ne sont pas à la hauteur, le chantier n'avance pas. Tu t'es fâché, tu as tapé du poing sur la table, tu as menacé. Peut-être même tu as fait des compromis, tu t'es préoccupé, tu t'es inquiété. Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Si tu t'affaiblis, si tu t'éteins, si la mèche que tu es est en train de se consumer, j'ai une super nouvelle. Dieu n'éteint jamais le lumignon qui fume. Allez, mettez un petit coup de coude à votre voisin, vous êtes tellement sérieux. Dites à quelqu'un à côté de vous, bonne nouvelle, le message est bientôt fini. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Tu ne vas pas t'éteindre toi-même. Arrête d'essayer d'éteindre ta propre vie. Arrête de vouloir éteindre l'autre à côté de toi. Si tu t'éteins, si tu te consumes, excuse-moi, arrête de t'en prendre aux circonstances. Ne t'en prends pas à l'olivier. Ne t'en prends pas à l'huile. Ne t'en prends pas aux ténèbres de ce monde. S'il te plaît, si tu te consumes, c'est ta faute. Ne t'en prends pas aux autres mèches. Elles y sont pour rien. Elles ont les mêmes problèmes que toi. C'est pas la peine de s'en prendre aux autres mèches. C'est pas la faute des autres. C'est la mèche que je suis, que je dois tout à nouveau, dans l'optique de la promesse de restauration du Seigneur, plonger tout à nouveau la mèche que je suis, incapable, insignifiante, insipide, la plonger dans l'huile de l'Esprit, et à ce moment-là, le feu va repartir. Il va y avoir du feu, il va y avoir de la lumière, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de l'efficacité, ça va sentir bon. Et à ce moment-là, vous allez voir, quand nos vies, les mèches que nous sommes, quand l'Église, le chandelier que nous sommes, va pouvoir réellement brûler et diffuser sa lumière, sa chaleur, sa vie, ses résultats, et puis là simplement la bonne odeur de Christ, lui il est parfumé, cette bonne odeur, vous allez voir les gens, ils vont venir tout seuls, parce que là où ça sent bon, les gens y viennent, là où il y a du feu, souvenez-vous à la Pentecôte, là où il y a du feu, les gens y viennent. Là où il y a un buisson qui ne se consume pas, Moïse a été voir. Là où il y a du feu, là où il y a de la lumière, là où il y a de la chaleur, là où il y a de l'amour, là où il y a de la vie, là où il y a du résultat, là où on vit quelque chose avec Dieu, les gens y viennent. Alors commençons chacun d'entre nous à plonger nos mèches dans l'huile de l'Esprit et puis nous allons retrouver cette dimension, que le Seigneur grave ça dans nos cœurs, comme à Zorobabel il l'avait gravé. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par l'huile de mon esprit. Amen.